L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public. Je vous précise que la prochaine édition de l'Esprit public, la prochaine émission de l'Esprit public, aura lieu en direct et en public à la Maison de la Radio, dimanche prochain donc, et le 9 octobre, et que vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site www.maisondelaradio.fr, www.maisondelaradio.fr si vous souhaitez assister au prochain Esprit public en direct et en public de la Maison de la Radio et en public. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser au centre et à la question de la stratégie qu'il adopte ou qu'il adoptera. « La famille du centre s'est perdue », déclarait François Bayrou à Valeurs Actuelles en août dernier. De fait, pour ne s'en tenir qu'au Modem, depuis sa création en 2007, ce parti a perdu les deux tiers de ses membres et ne revendique plus qu'un seul député et quatre sénateurs. Toutefois, au constat de la débandade du centre, le maire de Pau ajoute un corollaire et affirme que la reconstitution d'un grand parti centriste est une nécessité inéluctable. C'est au tour de la candidature d'Alain Juppé, si celui-ci remporte l'élection primaire, que M. Bayrou envisage la grande recomposition et reconstruction du centre, selon ses propres mots. Outre les qualités humaines qu'il accorde au maire de Bordeaux, le président du Modem salue en lui un homme d'État et se félicite de la résistance opposée par Alain Juppé aux dérives du débat identitaire. Selon l'enquête Comprendre 2017 lancée par le Cevipof avec Ipsos et Le Monde, Alain Juppé obtiendrait 67% des votes centristes au premier tour de la primaire et 95% contre Sarkozy au second tour, soit 100% des votes du Modem et 90% de ceux de l'UDI. Inversement, si Nicolas Sarkozy sortait vainqueur, François Bayrou se présenterait à l'élection présidentielle en comptant sur le ralliement tacite et officieux des juppéistes. Pourtant, Emmanuel Macron, le troisième homme du premier tour de la présidentielle, tel qu'il est annoncé par les sondages, perturbe le jeu politique au centre. Selon un sondage Elabe réalisé pour Les Échos et Radio Classique les 20 et 21 septembre, la présence de l'ancien ministre de l'économie au premier tour priverait Alain Juppé d'environ 6% d'intention de vote et réduirait d'un tiers celle de François Bayrou si Sarkozy est le candidat de la droite. Sur le plan des idées, des convergences existent entre Emmanuel Macron et François Bayrou, par exemple la promotion d'une politique économique de l'offre, des réformes structurelles ainsi qu'une orthodoxie budgétaire, tout cela leur est commun, de même que la défense des fondements de l'Union européenne. De plus, tout comme François Bayrou depuis plus de 20 ans, Emmanuel Macron défend l'idée d'une recomposition des forces politiques. Mais le président du Modem est très critique envers le fondateur de En Marche, il y voit un hologramme sous l'emprise des grands intérêts financiers. Or, François Bayrou tient à la séparation de l'État et de l'argent et refuse que le pouvoir de l'argent prenne le pas en politique. Le président du Parti du Centre, Jean-Christophe Lagarde, regarde Emmanuel Macron avec davantage de bienveillance et envisage de parler projet avec lui. C'est aussi le cas de la sénatrice UDI Chantal Jouanneau et du président du Parti radical, Laurent Hénard. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, le centre est dans une situation assez intéressante, assez paradoxale et comme toujours assez décevante. La situation est intéressante parce que, pour la première fois, le centre est au cœur de la cohérence idéologique, ce qu'il distingue de la droite et de la gauche. Nous avons, comme l'a très bien formulé Marine Le Pen, nous avons un partage idéologique entre des valeurs qui sont des valeurs de la droite extrême ou de la gauche extrême, qui sont des valeurs d'autorité, des valeurs de fermeture nationale, protectionniste, vaguement xénophobe, anti-migratoire, et des valeurs sécuritaires, autoritaires, assez peu respectueuses de l'état de droit. Ça, c'est ce qui domine une grande partie de la droite, et également, d'une certaine façon, avec un bémol de moins en moins net compte tenu de l'attitude de Mélenchon, la gauche de la gauche. À l'opposé, l'opposition à cela, ce sont les valeurs d'un centre large qui va, disons, d'Alain Juppé à Emmanuel Macron, en passant par les centristes de l'UDI et du Modem. Et là, nous avons au contraire une polarisation, enfin une affirmation autour de valeurs de liberté et de défense de droit, du droit, méfiance à l'égard des excès de l'état d'urgence, de la double déchéance, de la déchéance de nationalité, une affirmation très clairement pro-européenne et d'ouverture internationale contre le souverainisme de plus en plus large d'une partie de la droite, et enfin une confiance dans les valeurs d'échange, d'ouverture économique, à la fois un libéralisme régulé sur le plan intérieur et un refus du protectionnisme de... Là, ça fait donc une polarisation idéologique très forte, et on voit bien que le centre est très cohérent. Face à cela, ce qui est paradoxal sur le plan idéologique, c'est de voir que ces valeurs ne sont que très malaisément assumées. Elles sont globalement à peu près assumées par Alain Juppé, qui n'est pas vraiment un centriste. Elle la garde. Enfin, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui polarise, par exemple, Juppé face à Sarkozy. Or, on voit bien que Jean-Christophe Lagarde, à la fois pour des raisons tactiques, célèbre Macron, on ne sait pas pourquoi, par opposition à Bayrou sans doute, mais en même temps est manifestement en relation étroite avec Sarkozy, et son comportement, le comportement qu'il a aux primaires ne vise pas, c'est-à-dire l'abstention, ne vise pas à favoriser Juppé. On voit bien quelqu'un comme Maurice Leroy. Alors Maurice Leroy n'est pas un centriste authentique, c'est un homme plein de talent, très, très chaleureux, très doué, mais il a été secrétaire général du groupe communiste, puis il a été collaborateur de Charles Pasqua. Enfin, c'est pas un centriste d'appellation contrôlée, on va dire. Alors lui, je comprends qu'il soit...
Le centre est un mouvement.
Qu'il soit sur des valeurs plutôt sarkozistes. Bayrou lui-même a toujours été extrêmement compliqué. La phrase que... L'allusion que vous venez de faire, Philippe, à sa critique de Macron ne m'a pas du tout surpris. Parce qu'il y a toujours eu, c'est une chose que j'ai toujours sentie, qui m'a toujours gêné et qui a notamment contribué fortement à ma rupture politique avec lui, qui n'est pas une rupture personnelle, mais qui est une rupture politique, il a toujours fait preuve d'un crypto-populisme, ou je dirais d'un populisme subliminal très habile. J'en donnerai un exemple qui me paraît très typique. C'est sa campagne économique de 2012, le thème « Produisons français ». C'est un slogan qui ne signifie rigoureusement rien. Parce que quand vous êtes français, vous ne pouvez pas produire coréen. Le slogan qui signifierait quelque chose, c'est « achetons français ». Là, ce serait protectionniste. Donc il se garde bien d'afficher une position protectionniste. Il a un sens aigu des mots. Et s'il emploie une expression aussi absurde que « produisons français », c'est tout à fait en connaissance de cause. Parce que subliminalement, c'est une référence protectionniste sans en avoir l'inconvénient. Mais on peut multiplier sur l'Europe, sur tous les sujets. Donc on a... cette situation idéologique très, très, très... Et puis alors, on a le second niveau, qui est... Et alors là, on voit bien que les centristes, ils ne sont pas courageux sur le plan idéologique. Je ne parle pas de Bayrou, qui, lui, ce sont des convictions profondes. Et d'ailleurs, ces convictions crypto-populistes, ce sont celles, je dois le dire, qui lui ont sans doute permis de survivre à beaucoup de naufrages électoraux, parce que ça correspond à un courant très fort dans l'opinion, le rejet des élites, le rejet de Bruxelles, le rejet de l'argent, tout ça. Ce ne sont pas des thèmes du tout centristes, ce sont des thèmes populistes, mais ce sont des thèmes qui ont contribué à le lester dans l'opinion publique et à lui permettre de franchir des étapes extrêmement difficiles. Sur le plan, mais pour le reste, c'est inadmissible. Sur le plan moral, moi je dois dire que quand on est centriste, on ne peut pas actuellement, je n'ai rien contre Nicolas Sarkozy, mais on ne peut pas actuellement ne pas être opposé dans les primaires à l'attitude de Nicolas Sarkozy, qui est idéologiquement complètement différente. Sur le plan stratégique, je vais très vite, sur le plan stratégique, Mitterrand avait toujours dit, avec à juste titre, le centre c'est ni de gauche ni de gauche. Et je crois que c'était juste, pour une raison simple, c'est que la gauche elle-même est un bloc, qu'elle ne s'est jamais coupée de l'extrême gauche, et qu'adhérer à la gauche, c'est accepter tout le bloc. C'est comme si, à droite, on devait accepter aussi le Front National. Bon, ça n'est pas possible. Donc il reste deux options stratégiques pour les centristes. L'option alliance de la droite et du centre. C'est l'option qui a été celle, le seul moment où les centristes ont vraiment réussi, c'est-à-dire avec Giscard, la rencontre des indépendants, d'une partie du RPR et surtout des centristes chrétiens. Et c'est exactement C'était l'approche également, somme toute, d'Édouard Balladur. Alors, ça n'a pas marché. C'était l'approche de Raymond Barre, qui avait un mélange de centrisme et de gaullisme. Et c'est fondamentalement l'approche d'Alain Juppé. C'est quelque chose de très logique, et je trouve que l'alliance de la droite et du centre, ça devrait conduire effectivement les centristes à ne pas en tout cas privilégier l'autre option, qui est l'alliance de la droite et de l'extrême droite, idéologiquement, que représente aujourd'hui Sarkozy, pour quelques mois. Et deuxièmement, on a l'autre, et je termine, on a l'autre stratégie, qui est la stratégie centre-droit, centre-gauche, faisant sauter le système. Ça a été celle de Le Canuet, d'Alain Poher, de Jean-Jacques Servan-Schreiber, de François Bayrou. C'est aujourd'hui celle potentiellement d'Emmanuel Macron. Ça n'a jamais marché, jamais marché, mais il est évident qu'aujourd'hui, le système bipolaire est beaucoup moins solide qu'il n'était il y a encore 10 ans, que Bayrou, de ce point de vue-là, a été un prophète, qui était évidemment partisan de cela, a été un prophète un peu prématuré, et qu'aujourd'hui, il y a quand même une possibilité qui est intéressante et qui pourrait se révéler positive si, effectivement, par exemple, Sarkozy l'emportait sur Juppé, ce qui provoquerait, je crois, un traumatisme assez fort dans l'opinion et une pulsion de rupture par rapport à l'ordre bipolaire de la Ve République qui serait sans doute très forte.
Marc-Olivier Padis.
Intervenir sur le centre après un exposé de Jean-Louis Bourlange, c'est un peu monter sur scène avec un tambourin après la prestation d'un orchestre symphonique. Donc je vais essayer de donner...
Vous voulez dire que j'étais trop long?
Non, c'était une introduction.
En tout cas, je retiens la formule.
Jean-Louis Bourlange a excellemment décrit la fragilisation du système dit bipolaire, la force idéologique, la capacité à imposer un certain agenda politique, comme on dit aujourd'hui, des deux côtés, de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Il y a effectivement aujourd'hui une sorte d'encombrement au centre, de course vers le centre, en tout cas de course des regards qui convergent. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose à cet endroit, parce que le centre a aujourd'hui un peu la capacité aussi de capter une part de la colère populaire qui est aujourd'hui appropriée en partie par l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc aujourd'hui, tout semble possible au centre, mais je pense que c'est parce qu'on est encore très loin de l'élection que le champ des possibles semble aussi ouvert. De fait, la situation politique est assez fluide. Il est très difficile de dire comment les choses vont se stabiliser dans les mois qui viennent. Et cette fluidité encourage, bien sûr, les aventures personnelles. Puisque aussi bien l'élection du président de la République au suffrage universel peut encourager les tentatives de réussite personnelle, de promotion personnelle. Mon idée, c'est que cet espace des possibles va se refermer progressivement dans les mois qui viennent. D'abord parce que, comme l'élection présidentielle va s'approcher, les camps vont se solidifier progressivement. Et puis, il y a deux étapes intermédiaires importantes à gauche et à droite qui sont les élections primaires. Je pense que les primaires de la droite vont très bien fonctionner. Celles de la gauche, ce sera plus difficile, mais aujourd'hui, on ne sait pas encore qui est candidat. Mais ce qui est certain, à mes yeux, c'est que ces deux opérations, ces deux élections primaires vont structurer complètement le débat politique à partir de novembre et puis de décembre et janvier. Et à partir de là, comme le centre est absent de ces primaires, de même que l'extrême gauche et l'extrême droite, le centre va perdre du terrain progressivement ou perdre de l'attractivité une fois que se seront déroulées ces opérations et que des candidats auront été choisis déjà par ce processus qui a le mérite à la fois de focaliser énormément l'attention des électeurs et puis d'asseoir une légitimité extrêmement forte des deux candidats. Donc je pense qu'on va assister progressivement, même si aujourd'hui il y a un intérêt très très grand pour courtiser le centre et les voix centristes et les thèmes centristes, que ça ne va pas durer longtemps.
Sylvie Kaufmann.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les primaires vont être déterminantes dans ce qui va se passer avec le centre. D'abord, elles vont éclaircir le paysage, en tout cas à droite pour commencer fin novembre, puisque François Bayrou a dit assez clairement qu'il soutient Alain Juppé, sans voter pour lui, sans aller voter d'ailleurs, ce qui est une position assez intéressante.
À la primaire.
À la primaire, oui, à la primaire.
C'est logique quand même.
Oui, enfin bon, il faut se mettre à la place des électeurs quand même aussi. Oui.
Moi, je vais voter.
Oui. que si Sarkozy sort victorieux de la primaire, à ce moment-là, il sera candidat parce qu'il ne peut pas laisser la France dans ce qu'il appelle cette triple impasse qui est le Front National, le président sortant et le président précédent. Donc, lui arrivera à ce moment-là. En même temps, le centre est absent de ses primaires. Mais il est déterminant. Et on le voit bien dans cette enquête que vous avez citée en introduction, l'enquête électorale du CEVIPOF. Pour la première fois, il est tenu compte d'une candidature possible d'Emmanuel Macron. Et là, on voit bien que dans la primaire à droite, Macron grignote partout, mais grignote en particulier grignote sur l'électorat de Bayrou. Donc on a là une situation assez compliqué pour Bayrou. Et on voit aussi que Sarkozy, il grignote énormément sur l'électorat de Sarkozy. Alors sur le centre, sur la définition du centre, moi j'avoue que on revient toujours à ce problème de délimiter le centre et de définir le centre. Bon, institutionnellement on voit à peu près ce que c'est puisqu'il y a des partis qui se revendiquent comme centristes, mais politiquement et idéologiquement, comme l'a décrit Jean-Louis, ça peut être très vaste. Et en ce moment, dans le contexte politique actuel, il y a un véritable espace politique à occuper puisqu'on est en présence de ce phénomène de rejet assez considérable des partis traditionnels et de la droite et de la gauche. Le centre attira, je ne suis pas sûre que, comme dit Marc Olivier, le centre attirera le vote de la colère. Je pense qu'il va plutôt, le vote de la colère restera à l'extrême gauche et à l'extrême droite, mais il va plutôt attirer le vote de la désillusion et de la désaffection. Et là, il y a vraiment beaucoup à grappiller, si je puis dire. Et du coup, cette appellation de centre, moi, je trouve, est un peu négative parce que elle se réfère par essence, elle se réfère à la droite, à ce qu'il y a autour du centre, c'est-à-dire la droite et à la gauche, qui sont l'objet de rejet. Et c'est là que je trouve la définition d'Emmanuel Macron d'appeler ça le camp des progressistes, hein, qu'il oppose au camp des conservateurs pour essayer de mettre en place cette recomposition politique qu'il appelle de ses voeux. Là, je trouve le terme progressiste beaucoup plus attrayant, beaucoup plus intéressant et susceptible de ratisser beaucoup plus large.
C'est crypto-communiste.
François Bujon de l'État.
Mais moi, je pense que la question posée par Sylvie est tout à fait intéressante. C'est très difficile de définir le centre. En réalité, je sais que le centre, c'est un espace géographique, on pourrait dire, finalement. C'est une tautologie, mais entre la droite et la gauche. Mais alors, si c'est vrai, ça veut dire que c'est un espace qui peut se dilater ou s'étrécir, au contraire. Et au fond, on est tenté de dire que plus la radicalisation politique est forte, plus la droite est tentée par l'extrême, plus la gauche doit compter avec la gauche de la gauche, plus l'espace ouvert au centre s'élargit. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec la tonalité donnée à la campagne des primaires de la droite par Sarkozy, qui fait campagne très 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 près du Front National. On voit très bien qu'il y a un déport vers la droite et que du coup l'espace du centre s'élargit. Alors c'est ce que pense Juppé, par exemple, qui fait très clairement campagne, alors officiellement avec les centristes, puisque François Bayrou l'épaule. Mais c'est ce qui tente également Hollande, qui voit effectivement, ou Macron, qui voit effectivement un espace s'ouvrir. Au fond, le centre, c'est un peu comme un gaz en expansion. Si l'espace s'élargit, le gaz se répand. Le centre, c'est aussi une aspiration. Alors ça, c'était Giscard, Valéry Giscard d'Estaing qui disait toujours « la France a envie d'être gouvernée au centre ». C'était son intuition fondamentale, une intuition qui a toujours été démentie par les faits d'ailleurs, mais qui demeure comme une aspiration. Alors aujourd'hui, elle prend une coloration un petit peu nouvelle qui est « dépasser le clivage gauche-droite ». Ça, c'est la tentation, bien entendu, de M. Macron et du mouvement En Marche. Mais c'est aussi, dans une certaine mesure, la tentation de Juppé qui appuie beaucoup sur le centre. Dépasser le clivage gauche-droite, c'est une tentation qui est très compréhensible quand il y a blocage, quand il y a échec, comme il y a eu échec de la gauche, quand il y a eu échec, comme l'échec de Sarkozy 5 ans plus tôt, c'est compréhensible, et la droite et la gauche modérée, au fond, rêvent de faire leur pêche au centre. Mais alors, on en arrive à poser la question, au fond, si le centre va être à ce point l'élément d'équilibre et peut-être le faiseur de roi à la prochaine élection, qui est vraiment le centre et combien de divisions a-t-il ? Or, moi, je suis frappé par le fait que dans notre pays, où pourtant il y a une grande tradition centriste, il y a une grande tradition démocrate chrétienne des années 40 et 50, nous avons aujourd'hui un centre très fragmenté, puisque nous avons M. Bayrou d'un côté qui fait campagne avec Juppé, nous avons M. Lagarde et l'UDI de l'autre qui ont choisi une autre option qui est d'appuyer plutôt Sarkozy tout en refusant de participer aux primaires de la droite. Et puis nous avons le Parti radical de gauche de l'autre côté qui l'équilibre un petit peu. Et puis alors nous avons M. Macron qui est en marche. Et qui lui aussi, au fond, reflète, d'une certaine mesure, l'aspiration centriste. Alors, où sont les divisions, finalement, dans tout cela ? On voit bien la fragmentation, le poids électoral, il est supposé, il est putatif, mais il est encore à démontrer, et il y a probablement une grande volatilité au sein de l'électorat centriste qui fait que celui-ci va pouvoir se placer un petit peu en fonction de ce qui se passe aux primaires, puisque finalement, ce sont les primaires qui vont, comme nous l'avons dit, éclaircir un peu l'atmosphère. Alors, je voudrais ajouter une autre remarque. C'est le facteur européen, parce que très souvent l'Europe a été, pour les centristes, un cheval de bataille, un élément idéologique très très fort, et le centre a beaucoup contribué à faire avancer l'Europe et la construction européenne. Et voilà qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Europe est absente, bien entendu, du débat, puisqu'on l'incrimine volontiers de toutes parts, qu'on lui trouve tous les défauts. Le sujet européen n'est pas du tout porteur, alors que d'habitude, il est le ciment du centre, et qu'il est souvent sa spécificité, le facteur européen est presque un repoussoir et a aujourd'hui tout à fait disparu. Monsieur Bayrou, Monsieur Lagarde, les grands centristes ne parlent plus de l'Europe. C'est une novation qu'il faut quand même souligner.
Jean-Luc Bourlange ?
Oui, j'ai quelques remarques très rapides. D'abord, je ne crois pas du tout, je crois que le centre est idéologiquement beaucoup plus cohérent que ne le dit Sylvie. J'accepte tout à fait en revanche la comparaison gazeuse de François, ça se rétracte, ça se dilate, etc. Mais depuis la guerre, on voit bien qu'il y a trois traditions fondamentales. Dès 51, dès les élections de 51, on voit la troisième force, c'est l'ensemble des forces centristes, ça se définit idéologiquement assez clairement par le parti européen, le parti parlementaire à l'époque, et un parti libéral-social, et à côté de ça, on a une opposition à caractère nationaliste incarnée par le RPF, et une opposition à caractère révolutionnaire incarnée par le Parti communiste. Alors, c'est quand même trois espaces idéologiques extrêmement distincts les uns des autres. Alors, bien sûr, la caractéristique des hommes politiques, c'est qu'ils sont toujours borderline, qu'ils circulent dans tout, et donc ils s'arrangent pour qu'on n'y comprenne rien. Mais il y a quand même cette structure, et on la retrouve à tout moment. L'UDF, c'est la reprise de tous les partis qui s'étaient apparentés en 51. Socialistes anticommunistes, peu nombreux en 74, radicaux, démocrates chrétiens, et républicain indépendant. La deuxième remarque, c'est que ce qui caractérise le centre, c'est une très grande unité de politique gouvernementale qu'on pourra qualifier d'anti-jacobine, à la fois sur le plan européen et sur le plan intérieur, mais avec deux traditions culturelles fondamentalement différentes et qui fait que, comme on dit quand on est sociologue de gauche, ça n'a jamais réussi à faire société. Nous avons d'un côté un héritage de l'ancien régime par la main gauche, qui a abouti au MRP, c'est-à-dire en fait la doctrine sociale de l'Église, qui est assez fondamentalement corporatiste, sans attacher à ce mot les connotations négatives du fascisme, etc. On croit à la famille, on croit aux écoles, on croit à la région, on croit aux syndicats unitaires en matière agricole, c'est-à-dire on croit à des unités organiques élémentaires, on ne croit pas à l'individu. Et puis, d'autre part, un libéralisme qui, lui, descend de la Révolution française par la main droite. Hein, la MRP, c'est l'Ancien Régime par la main gauche. Et ça fait une espèce de coexistence qu'on voit tout le temps. Vous voyez, par exemple, ce qu'a été l'opposition Bayrou-Madelin, qui est très typique. Et là, et comme ces gens n'ont jamais réussi à faire une société ensemble, ils ont toujours acheté leur leader sur étagère. Et donc, ils l'achètent à côté. Soit c'est des gens sans parti, comme Barre, ou des gens qui sont déjà au pouvoir, comme Giscard, avant que le parti soit constitué, ou carrément, ils achètent sur le parti d'en face, ce qu'ils ont fait avec Balladur et ce qu'ils font avec Alain Juppé. C'est une extraordinaire. Alors, ce parti anti-jacobin choisit ses têtes de liste dans le parti de l'État, puisque ce qui donne la légitimité, c'est des gens qui ont un parcours à la tête de l'État comme Premier ministre, etc., qui les cas. Donc il y a quelque chose de très paradoxal, mais je crois à la solidité profonde de cette famille. Évidemment, elle est totalement absente politiquement maintenant. Les gens ne sont pas à la hauteur, les acteurs ne sont pas à la hauteur de leur rôle.
Sylvie Kaufmann.
Oui, je ne veux pas dire du tout que le centre est vide idéologiquement. Ce que je veux dire, c'est qu'il est parce qu'il y a de vrais dénominateurs communs à tous ces centristes et des fondamentaux que Philippe a d'ailleurs rappelé dans les programmes de gouvernement dans son introduction. Ce que je veux dire, c'est que dans cette absence de définition, il manque de pouvoir d'attraction, particulièrement dans le contexte politique d'aujourd'hui où tout est remis en cause. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une opportunité maintenant pour les gens qui défendent ces idées-là, de les installer vraiment dans le paysage politique. Et alors là, je voudrais juste dire deux mots, puisqu'on est quand même dans la perspective d'une campagne présidentielle, sur les personnes. Parce que si le centre se reforme autour d'objectifs cohérents, ce qui est tout à fait possible dans le paysage actuel, qui va l'incarner? Qui va le diriger? Qui va être le chef? Et c'est là qu'on a le clash possible et déjà actuel, à vrai dire, entre Bayrou et Macron. Ils se sont apparemment rencontrés en juillet, enfin ils ont dîné ensemble à Pau et puis l'alchimie n'a pas fonctionné en tout cas du côté Bayrou qui à partir de là a donc attribué tous ces noms d'oiseaux bulles de savon, hologrammes, etc. Et est parti dans cette campagne contre Emmanuel Macron, agent des puissances de l'argent, des intérêts financiers. Et là c'est vrai que alors je trouve que c'est dommage parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui les rapprochent dans leurs idées, mais là il y a un vrai clash personnel. Et il y a aussi une opposition. Vous parliez de l'aspect crypto-populaire, de la dimension crypto-populaire populiste.
Oui, j'avais été jusqu'à dire un mot aussi.
Voilà, de Bayrou. Et si on met en rapport deux interviews assez intéressantes, je trouve celle de Bayrou à Valeurs Actuelles fin août et celle d'Emmanuel Macron au magazine Le 1 d'Éric Fotorino à la mi-septembre, qui est très intéressante. On voit bien que là, il y a une opposition entre les deux. Macron, il parle beaucoup d'Europe, d'ailleurs, et très bien. Mais il y parle aussi de l'argent et de l'attitude de... Alors évidemment, il se présente absolument pas en représentant des intérêts financiers, mais il est assez critique sur le rapport des Français à l'argent et à la richesse. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est totalement anti-Bayrou.
Si je comprends bien, le centre est un drôle de milieu et nous allons nous intéresser maintenant aux élections présidentielles aux États-Unis. Le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton se sont opposés lors d'un premier débat télévisé de la campagne pour la présidence des États-Unis. Leurs échanges, souvent tendus, ont essentiellement porté sur l'économie, la politique étrangère et la sécurité intérieure. Ils ont été suivis par 84 millions de personnes. Donald Trump a violemment critiqué l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, signé en 1994, accord qu'il tient pour responsable de l'effondrement de la production industrielle états-unienne, et il a réaffirmé son opposition à la signature de l'accord de partenariat transpacifique. Interrogé sur le contexte de fortes tensions raciales que traversent les États-Unis, Donald Trump s'est érigé en soutien des communautés afro-américaines, qu'il a décrit comme décimé par le crime, notamment du fait des migrants sans papier. Le milliardaire a reproché à Hillary Clinton d'être restée chez elle au lieu d'aller à leur rencontre, faisant référence à la convalescence qu'a dû observer Mme Clinton à la suite d'une pneumonie, et il a enfin affirmé que Mme Clinton n'avait ni le physique ni l'endurance pour être présidente des États-Unis. La candidate démocrate a attaqué la crédibilité de son adversaire tout au long du débat. Elle a dénoncé les mensonges racistes de Donald Trump, qui a longtemps affirmé que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis. Elle a regretté qu'il se refuse toujours à rendre publique sa déclaration d'impôt. Elle a rappelé que son adversaire s'était prononcé en faveur de l'intervention américaine en Irak et avait mis en doute la véracité du réchauffement climatique, élément que le candidat républicain a nié tout au long de sa campagne. En réponse aux attaques sur sa convalescence et son état de santé, Mme Clinton a répondu qu'elle en avait profité pour préparer ce débat et se préparer à être présidente, afin de mieux mettre en avant l'endurance dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière politique et notamment dans ses fonctions de secrétaire d'État. La grande majorité des commentateurs ont critiqué la performance du candidat républicain face à une Hillary Clinton seule apte à devenir présidente pour le Washington Post, alors que la chaîne conservatrice Fox News a déploré le manque de préparation de Donald Trump, qui, je cite, aurait pu gagner l'élection au cours du débat et qui a perdu une grande opportunité. Fin de citation. Le candidat républicain est cependant parvenu à progressivement réduire l'écart qui le séparait d'Hillary Clinton dans un contexte de nouveaux actes terroristes sur le sol américain, de violence raciale et de précarisation des classes moyennes. Sur cette question, Sylvie Kaufmann.
Alors, sur un petit mot sur ce débat, parce que c'était le premier et qu'il était quand même assez assez impressionnant, je trouve, notamment par le fossé qu'il a montré entre les deux candidats. On avait donc, c'était très attendu, on ne savait pas du tout qui, c'était très ouvert, on ne savait pas du tout qui allait l'emporter. Les deux candidats étaient vraiment coude à coude dans les sondages. Et il a été, de l'avis général, et j'y reviendrai sur cet avis et ce que ça veut dire, largement dominé par une Hillary Clinton en pleine forme, totalement rétablie de sa pneumonie, si c'en était vraiment une, mais bon, en tout cas en pleine forme et en pleine possession de ses moyens, qui a exploité à fond son côté bonne élève, travailleuse, expérimentée, qui s'est montrée très offensive et très caustique, et qui a porté d'ailleurs une estocade finale assez magistrale, je trouve, sur la question des femmes et de l'attitude, du comportement général de Donald Trump vis-à-vis des femmes et en particulier vis-à-vis des reines de beauté avec lesquelles il a longtemps travaillé et qu'il a visiblement assez maltraité. Voilà. Et lui, en face, est apparu comme très mal préparé. Il l'a même reconnu. Alors, il faut dire que c'était la première fois, finalement, que Donald Trump se trouvait dans un débat en tête à hors. Avec un seul adversaire pendant 90 minutes. Jusque-là, il avait participé à des débats, surtout dans le cadre des primaires, où il y avait plusieurs participants, et donc l'attention n'était pas focalisée sur lui en permanence. Là, on a vu que c'était très long pour lui et qu'il n'avait effectivement pas assez travaillé. Alors, cela dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que, de l'avis général, c'est elle qui l'a emporté, mais personne ne sait, en réalité, quel va être l'impact ou quel a été, on a déjà quelques sondages, mais de cette supériorité apparente d'Hillary Clinton sur l'électorat. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même, je crois, près de 20% des électeurs qui sont indécis. Et c'est un très gros morceau à emporter pour les deux candidats. Mais cette campagne électorale est tellement hors norme, elle est tellement éloignée des critères classiques des calculs électoraux, de la logique politique traditionnelle, que personne ne sait vraiment aussi bien les gens qui sont enclins à voter pour Donald Trump et qui n'aiment pas Hillary Clinton, parce qu'ils sont quand même très nombreux. Elle a un taux d'opinion négative assez impressionnant, ont peut-être été renforcés dans leur opinion, ou ont peut-être trouvé Donald Trump, que nous avons trouvé mauvais, ils l'ont peut-être trouvé finalement assez convaincant. Voilà, juste sur ce débat, cette campagne reste une campagne totalement, comme je l'ai dit, hors norme, et étrange, et étonnante, et surprenante. Et je voudrais juste souligner qu'elle a déjà fait sauter beaucoup de tabous dans la politique américaine traditionnelle. Il y a les tabous que Donald Trump a lui-même pulvérisés, comme celui de s'attaquer aux femmes, celui de s'attaquer au changement climatique, celui de s'attaquer aussi à l'immigration illégale, sur lequel il y avait de manière aussi offensive, hein, l'histoire du mur qu'il veut construire à la frontière mexicaine. Il y avait quand même jusqu'ici un consensus assez large, à la fois chez les républicains et chez les démocrates, sur une grande tolérance vis-à-vis de l'immigration illégale. Et puis, il y a les consensus que les deux candidats finalement transgressent, le libre-échange, le retour à un certain protectionnisme, le fait que le rôle extérieur de l'Amérique, des États-Unis, qui ne doit plus être le gendarme du monde, on est vraiment revenu de toutes ces interventions. Et puis, il y a un grand absent aussi dans cette campagne, c'est Dieu. Je trouve ça assez intéressant. Il n'est pas question de religion. Dieu a disparu du paysage électoral américain.
François Bujon de l'Étang.
Sylvie a parlé d'une élection hors norme et je voudrais revenir là-dessus quelques instants. C'est vrai que c'est une élection qui tranche par rapport à l'histoire des élections présidentielles, y compris récentes aux États-Unis. Elle a de nombreux facteurs de singularité, cette élection-ci. Bon, d'abord, c'est une fin de cycle après 8 ans d'un président démocrate qui était Obama, dont l'héritage est discuté. Mais c'est une fin de cycle et dans les fins de cycle, on ne sait jamais très bien ce qui peut se passer. C'est à chaque fois une espèce de rupture. Et un autre facteur de singularité, c'est que le Parti républicain est divisé comme jamais. Alors nous n'avons encore jamais vu un parti républicain émietté entre les conservateurs religieux, les Tea Parties, les malheureux républicains modérés qui ne savent plus où ils en sont. Et tout ceci a produit un candidat très inattendu qui n'a rien de républicain et qui est le candidat du Parti républicain, c'est M. Donald Trump. Grand imprécateur, grand simplificateur, qui au fond a été élu à la surprise générale des républicains, ayant balayé 16 autres candidats républicains pendant les primaires, y compris des candidats très expérimentés, gouverneurs d'État, etc. Et un personnage venu de la société civile, venu du monde des affaires, qui s'est tout de suite rangé dans le camp de l'anti-establishment et qui, de ce fait, a su capter le mécontentement, la colère de l'électorat américain. Au fond, Trump, c'est la rencontre entre une révolte des électeurs et un tempérament extraordinaire, hors norme pour le coup, le tempérament, qui fait qu'il est devenu, à la surprise générale, le candidat des Républicains et un candidat tout à fait insolite. Alors, les deux candidats sont très impopulaires. C'est quand même une chose qu'il faut souligner. Les Américains, quand vous leur parlez, c'est très courant de les entendre, disent « je les déteste tous les deux ». Alors, ils ont des raisons qu'ils articulent très bien, mais ce sont les deux candidats les plus impopulaires qu'on n'a jamais vu s'affronter dans une élection américaine. Tout ceci fait en effet une élection absolument hors norme. À ceci s'ajoute le fait que l'équation électorale aux États-Unis, je trouve, les données de l'équation électorale sont assez nouvelles. Les démocrates pensent qu'ils ont trouvé la martingale gagnante. Au fond, si vous analysez les deux élections d'Obama, son élection et sa réélection, vous voyez qu'il a gagné grâce à un triplé, le triplé gagnant, les jeunes, les femmes et les minorités, toutes les minorités, noirs, hispaniques, asiatiques, américains. Et bien entendu, il arrive à s'efforcer de rééditer ce même succès. Trump, lui, au contraire, a fait l'impasse sur ces trois catégories d'électeurs. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Il horrifie les minorités par les propos qu'il tient sur l'immigration, il horrifie les femmes par les propos qu'il tient sur elles, et il horrifie largement les jeunes, où il sert plutôt de repoussoir que d'élément d'attraction. Il a fait l'impasse. Et lui, il vise une autre Amérique, l'Amérique blanche, l'Amérique déshéritée, l'Amérique peu éduquée, l'Amérique abandonnée du centre industriel du Middle West, l'Amérique d'âge moyen. Au fond, l'homme blanc, pas très jeune, et pas très éduqués. Et ça, ce sont des électeurs qui, d'habitude, ne vont pas voter. Donc la grande novation, c'est qu'il a réussi à attirer toute une catégorie d'électeurs qui, d'habitude, ne se rendent absolument pas aux urnes, mais qu'ils s'opposent du même coup à ce qui a fait la victoire des présidents démocrates précédents. Les cartes, du coup, sont tout à fait brouillées. Hillary Clinton elle-même s'est trouvée tirée à gauche par le facteur Bernie Sanders et a été obligé de gauchir son discours et son programme. Trump, lui, déconcerte totalement les républicains, mais totalement, au point qu'un certain nombre de grands caciques républicains ne veulent pas voter pour lui, se sont prononcés pour lui ou s'abstiendront. Et puis, Hillary Clinton, c'est beaucoup de déjà-vu quand même. Ça fait 35 ans qu'on la voit en politique. C'est sa deuxième campagne présidentielle. C'est une campagne de primaire, la première fois en 2008, mais quand même, tout le monde sait qu'elle est très travailleuse, très compétente, très expérimentée, mais en même temps, elle n'est pas charismatique et elle a commis un certain nombre d'erreurs tout à fait grossières, notamment en s'en prenant à l'électorat de M. Trump, d'abord, et ensuite en ne disant pas la vérité à propos de sa pneumonie. Alors, il s'y ajoutera, mais j'aimerais y revenir un peu plus tard, un problème d'arithmétique électorale qui est complexe qu'il faut bien comprendre, mais qui joue contre M. Trump. J'y reviendrai tout à l'heure, si vous me le permettez.
Marc-Olivier Padis.
Oui, François Bujon de l'Étang a bien parlé de cet électorat qui est visé par Trump. J'ajouterais juste aux caractéristiques qu'il a données que c'est certainement la part de la population américaine que, vu d'Europe ou de France, nous connaissons et que nous comprenons le moins bien. Mm-hmm. Sauf peut-être les admirateurs du rock américain qui connaissent un peu la classe ouvrière américaine, mais c'est pas la Silicon Valley, c'est pas New York, c'est pas les grandes ville, c'est pas l'Amérique, c'est pas Harvard, c'est pas les universités. C'est pas les deux côtes, exactement. Non. Dans la géographie, on voit vraiment, c'est le centre du pays, c'est ce qu'on connaît le plus mal. Et donc, on est très étonné, vu d'ici, ce discours, de sa manière de se présenter. Et puis, on comprend mal aussi le fait que, pour nous, vu d'Europe, on avait l'impression que les États-Unis, économiquement, vont mieux que l'Europe. Ils se sont remis plus rapidement de la crise de 2008 que nous. Le chômage y est faible. Mais en même temps, il faut voir que les emplois qui sont créés sont souvent des petits jobs, mal payés, pas forcément à plein temps, qu'il y a une part importante de la population qui n'est plus sur le marché du travail et donc qui n'est pas comptée dans le taux de chômage. Et puis surtout que les inégalités se sont développées de façon extraordinaire et que ça affaiblit aussi l'économie américaine profondément et bien sûr la société elle-même. Alors, la grande énigme pour les observateurs de la vie politique américaine, c'est pourquoi est-ce que Hillary Clinton n'est pas davantage en tête par rapport à Trump. C'est-à-dire la faculté de résistance de Trump, dont la stratégie politique est difficile à lire et semble difficilement gagnante, malgré tout. Quand on voit le débat, ce qu'on sent aussi, ce qu'a décrit Sylvie, c'est que Hillary Clinton, elle est préparée, elle a beaucoup de compétences, mais on sent qu'il y a derrière elle une équipe qui lui a préparé ses fiches, il y a toute une machine qui aide à sa campagne, et pourtant elle ne s'est pas encore vraiment imposée. Trump résiste beaucoup. Alors pourquoi Trump résiste-t-il autant? Évidemment, il y a une part de son positionnement politique est le fait qu'il se présente, il est un homme nouveau, c'est un outsider, il est anti-establishment, comme l'a dit François Bujon de l'Étang, il dénonce comme s'il n'en faisait pas partie les élites du pays, en tout cas il ne fait pas partie des élites qui ont été au gouvernement, il ne cesse de renvoyer à Hillary Clinton le fait qu'elle a fait partie des cercles du pouvoir depuis longtemps. Il a aussi cette sorte de charisme très particulier, anti-intellectualiste, qui parle à une partie de l'opinion. Et puis, c'est une personnalité un peu autoritaire aussi qui peut s'imposer. Et d'ailleurs, il a une ligne politique dont on parle assez peu, qu'il résumait récemment dans une interview dans un journal américain, de façon que je trouve très claire. Il disait « Quand le monde s'écroule, Les gens réclament un leader fort dont la priorité est de protéger l'Amérique. Et on peut lire toutes ces partis pris à la lumière de cette ligne politique unique.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, vous vous souvenez de ce film absolument remarquable avec Charlton et Henry Fonda qui s'appelait « Tempête à Washington ». Et qui était un film sur la vie politique américaine au début des années 60. Et ça se termine, ce film, par le fait que les deux leaders des deux partis disent qu'ils n'arrivent pas à arriver, ils ne réussissent pas à avoir une position commune dans leur propre groupe. Et donc, ils laissent les gens voter comme ils veulent. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce c'est ce que nous vivons au niveau populaire, et non pas au niveau du Congrès comme dans le film, au niveau du Sénat comme dans le film, ce que nous vivons là, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire que les partis politiques sont l'un et l'autre en crise absolument profonde et en décalage total par rapport à la société, ce qui crée cette situation que vous avez décrite et parfaitement en disant que on ne sait plus du tout où on en est, on ne sait plus du tout qui défend quoi. Le parti démocrate est profondément en crise. Hillary Clinton, le Parti démocrate, c'est traditionnellement deux choses. Ce sont les minorités, comme vous l'avez rappelé, et là les minorités restent à peu près, avec une ambiguïté chez les hispaniques hispanos qui sont un peu ambigus malgré les attaques de Trump, les minorités restent plutôt attachées au Parti démocrate. Mais c'était traditionnellement la classe ouvrière, sa représentation syndicale et dans son lien avec les élites intellectuelles. Il y avait une espèce de, c'est ce que je dirais à Arthur Miller, quoi, le syndrome du lien entre les intellectuels, notamment de Harvard, de tous ces économistes qui travaillaient pour Kennedy, etc. Bon, là, on a une rupture totale de cela. Et on voit bien que la classe ouvrière américaine est complètement coupée de cet électorat, ce qui fait que géographiquement, eh bien, Hillary Clinton, elle est puissante sur les deux côtes, mais pas du tout au milieu. Sociologiquement, elle passe à côté de la classe ouvrière. Et intellectuellement, son côté élitiste lui est plutôt porté à charge. À l'inverse, du côté républicain, on voit bien l'ampleur des transgressions réalisées par Trump. C'est un parti religieux. Trump est totalement indifférent à la religion et même à la morale. C'est un candidat qui vraiment se moque ouvertement de toutes les exigences morales, du respect aux anciens combattants. Enfin, c'est une espèce d'immoralisme profond. Ça me fait penser à l'opposition d'Israeli Gladstone, où on disait que Disraeli avait réussi face à Gladstone en faisant naître une commune, en appelant à la communauté de vice, reliant les classes supérieures et les classes inférieures face à la communauté de vertu qui était incarnée par les classes moyennes et Gladstone. Et là, on voit bien cette espèce d'appel un peu canaille qui est très profond. Deuxièmement, il est protectionniste alors que les républicains sont depuis quelques décennies plutôt ouverts. Il est contre, il est plutôt favorable au big government alors que les républicains ne le sont pas. Il est totalement allergique à l'interventionnisme néoconservateur qui d'ailleurs là est un truc compliqué parce que ça vient du Parti démocrate et ça a été récupéré par les républicains. Donc il y a une espèce de rupture totale des codes et là on est en face d'une situation dont on ne voit pas du tout comment elle pourra se résoudre, sauf que on voit bien que Trump a eu quand même à coller aux deux pulsions fondamentales, c'est-à-dire l'exaltation sous toutes ses formes du besoin de frontières et l'exaltation sous toutes ces formes de l'hostilité à la classe dirigeante.
François Bujon de l'État.
Non, mais Trump, c'est ce que Jean-Louis est en train de dire. Trump n'est pas républicain et le Parti républicain ne se reconnaît pas en lui. Tout ce qu'il dit est contraire à la doxa du Parti républicain. Alors c'est un facteur aggravant parce que le Parti républicain, de toute façon, a un problème majeur, c'est qu'il a du mal à récupérer la Maison-Blanche à cause du jeu de ces élections indirectes et du système des grands électeurs que les Européens ne comprennent pas mais qui est propre au système américain. Il y a une arithmétique implacable. Il faut gagner 270 grands électeurs pour être élu président des États-Unis. Bien. C'est comme ça. Et puis, quand vous gagnez un État, vous gagnez tout, même si vous n'avez qu'une seule voix d'avance sur l'adversaire. Or, aujourd'hui, si vous prenez tous les États qui ont voté démocrate depuis 6 élections présidentielles, c'est-à-dire depuis 1992, Madame Clinton dispose, sur sa table de nuit, comme ça, le matin, en se levant, de 242 grands électeurs. Il lui suffit d'en trouver 28 pour réussir à se faire élire présidente des États-Unis. Ça montre la grande difficulté dans laquelle se trouve M. Trump, malgré tout son talent, malgré ses éclats. Il aura du mal. Il a aujourd'hui plus de 100 voix de retard sur elle pour gagner le collège électoral. Et pour réussir à combler ce retard, il lui faudrait gagner deux des grands swing states, qui sont la Floride et l'Ohio. Mais en plus, il lui faut y ajouter 4 ou 5. Oui, il est bien placé en Floride. Dans l'Ohio, c'est moins sûr. Il est bien placé en Floride, mais la Floride est toujours à 50-50, donc des surprises sont possibles. Mais ça ne suffit pas. Il lui faudrait y ajouter au moins 4 États ou 5 États qui ont voté démocrate depuis 1992. C'est vous dire la difficulté de l'équation purement arithmétique à laquelle il est confronté.
Ça, vous voulez dire qu'il peut être tout à fait majoritaire en voix est battu à la présidence.
Majoritaire en voix, c'est pas sûr, mais ça reste à voir. Ça s'est déjà vu la dernière fois quand M. Gore a eu 500 000 voix de plus que M. Bush et a perdu avec, au fond, 5 000 voix de plus en Floride pour M. Bush.
Harrison avait battu Cleveland au 19e siècle.
Marc-Olivier Padis.
Juste au-delà de cette arithmétique électorale, il y a une question qui est donnée par le phénomène Trump et que tout le monde regarde aussi dans différents pays, c'est-à-dire est-ce qu'il annonce une sorte de style politique nouveau, différent. Est-ce que derrière lui, il y a, disons, le profil d'une personnalité politique un peu nouvelle? Et certains commentateurs ont appelé ça l'ère de la politique post-factuelle, c'est-à-dire...
Post-vérité.
Ou post-vérité.
Les faits n'ont pas d'importance.
Parce qu'au cours du débat, il y avait ce qu'on appelle maintenant des fact-checkers, donc les gens qui vérifient la véracité des affirmations. On voit que Clinton, elle a des bons scores. Lui, la moitié de ce qu'il dit est complètement faux. Et pourtant, ça ne lui porte pas préjudice. C'est ça l'énigme de la politique post-factuelle.
La manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Je signale le livre de Laure Mandeville, qui est vraiment Donald Trump aux éditions Les Équateurs, Le Figaro, qui a été utile à la préparation de cette émission. Je rappelle que la semaine prochaine, nous serons donc en direct et en public, et que vous pouvez, si vous souhaitez venir, vous inscrire sur le site www.maisondelaradio en un seul mot. .fr et je voudrais signaler à ceux qui sont à Paris ou qui viendraient à s'y trouver la représentation au Théâtre 14 d'une pièce d'Edouard Bourdet que j'avais lue mais dont je crois qu'elle n'avait pas été montée depuis très 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 longtemps, qui s'appelle Vient de paraître, qui est une très jolie pièce. Et comme raconteur d'histoire, Bourdet est absolument formidable parce qu'il y a tout, la méchanceté, la rapidité, l'inventivité, le changement, la surprise. Gaston Gallimard au milieu qui est d'un cynisme absolument charmant parce qu'il n'y a rien d'exagéré et on se... Bien entendu, les mœurs de l'édition ont considérablement changé depuis, tout ça ne serait plus possible. Enfin, ça ouvre sur la distribution du prix Zola qui se distribue dans un restaurant qui s'appelle Drouan. Allez savoir si ça vous fait penser à quelque chose. C'est monté avec beaucoup de vivacité et c'est donc au Théâtre 14. Marc-Olivier Padis.
Je voudrais recommander un excellent petit essai politique. Qu'est-ce que le populisme? Définir enfin la menace, par un jeune spécialiste de l'histoire des idées qui est allemand, mais qui enseigne à New York, qui s'appelle Jan Werner Müller. Et ce livre est vraiment une présentation extrêmement claire de tout ce qu'on peut essayer de comprendre sur le populisme, définir le populisme à la fois comme pratique du pouvoir, quand c'est Orban, par exemple en Hongrie ou toute l'Amérique du Sud, et puis comme mouvement protestateur. Et donc c'est chez un tout petit éditeur qui s'appelle Premier Parallèle.
François Bujon de l'Étang.
C'est bien ça.
J'ai fait dire François Olivier Bujon de l'Étang.
C'est intéressant comme variation. Non, moi je ne vous donne pas de recommandation de lecture, mais je voudrais donner un petit coup de projecteur sur un fait qui, dans ce monde archimédiatique et surinformé dans lequel nous vivons, semble avoir été curieusement ignoré par tout le monde cette semaine. La France s'est passionnée pour Ingrid Betancourt et pour son malheur il n'y a pas si longtemps, et personne, pratiquement, n'a souligné que lundi dernier, 26 septembre, un accord définitif a été signé entre le président José Manuel Santos de Colombie et le leader des FARC, dénommé Timoshenko. Un accord qui va être soumis d'ailleurs à référendum le 2 octobre, référendum par l'ensemble du peuple colombien. C'est un accord de paix définitif qui fait suite au cessez-le-feu lui-même définitif conclu le 28 août dernier et qui met fin à l'une des plus longues guerres civiles qui ait endeuillé l'Amérique latine depuis plus de 50 ans, un demi-siècle. C'est en 1964 que les FARC ont été formés. Tout le monde sait que cette guerre a été sanglante, qu'elle s'est accompagnée de prises d'otages, de massacres épouvantables avec les paramilitaires qui s'en sont mêlés. Il y a encore plus de 7000 hommes sous les armes dans les jungles colombiennes qui se réclament des FARC, et l'accord va les réintégrer dans la société colombienne, va les réintégrer progressivement, y compris dans l'armée. C'est un événement politique majeur en Amérique latine que je voulais tout de même relever.
Sylvie Kaufmann.
Juste pour rendre justice à la presse que je représente, mon auguste journal Le Monde a couvert cet événement et y avait consacré un éditorial au moment de la conclusion de l'accord fin août. Alors je voudrais pour continuer sur notre étude de cette Amérique qui nous étonnera toujours, signaler un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Yaak Valley Montana. C'est par un auteur américain. C'est son premier roman, Smith Henderson. C'est aux éditions Belfond. Et c'est une histoire de fou, mais qui raconte formidablement bien l'Amérique blanche d'aujourd'hui. Je serais tentée de dire cette Amérique de Donald Trump, même si les événements se passent dans les années 80. C'est l'histoire d'un travailleur social qui vit dans le Montana et qui est lui-même un marginal et d'une certaine manière victime de tous les maux qu'il est censé soigner. Et alors il navigue dans un univers de ce grand ouest très sauvage, cette Amérique rurale qu'on connaît finalement assez mal, qui est très différente des deux côtes dont vous parliez tout à l'heure. Et alors voilà, on rencontre dans ce roman des fous, de la violence, de l'alcool, de l'extrémisme, mais aussi de l'amour et beaucoup d'humour. C'est remarquablement écrit et je vous le recommande.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je voudrais rendre hommage à un journaliste que je trouve exceptionnel et qui vient de nous quitter, qui est Jean Boissonnat. Jean Boissonnat était une personnalité absolument, je crois qu'on peut le saluer de deux manières. D'abord par ses qualités professionnelles, il avait tant à l'écrit que dans ses chroniques à Europe 1 à l'oral, une clarté, une capacité pédagogique, une aptitude à distinguer l'essentiel qui était vraiment, vraiment remarquable. Il n'y avait aucune pédanterie, il y avait le raisonnement qui s'imposait avec une force extraordinaire, et il a été de ce point de vue-là l'instrument pédagogique de l'acculturation économique des classes moyennes. Les classes moyennes ont découvert après la guerre et dans les années 60 et 70 ce qu'était l'économie, en grande partie grâce à des gens comme Jean Boissonnat, comme également Fourastier, mais Boissonnat en tant que journaliste. Et puis deuxièmement, sur le plan personnel, sur le plan idéologique, il incarne des valeurs qui sont aujourd'hui bien malmenées, mais qui sont fondamentales. La confiance dans l'expansion, le titre du journal qu'il a créé, dans la croissance, un sens aigu de la volonté du partage social et un engagement européen qui n'était pas naïf, mais qui était extraordinairement résolu. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'on devrait se souvenir aujourd'hui du message politique et professionnel de Jean Boissonnat.
Merci. Si vous ne savez pas ce qu'est le vol au vent contraire, ni le carpaccio d'ombre sous le soleil de l'Ecclésiaste, ne manquez pas l'émission d'Alain Kruger qui va suivre. On ne parle pas la bouche pleine. Elle est intitulée Après la nuit blanche, fragment de cuisine existentielle avec une artiste plasticienne japonaise et un artiste mathématicien, Lei Sato et Laurent de Robert. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec aujourd'hui à la technique Jean-Richard Dufour. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne, à l'antenne ou bien en public et en direct si vous souhaitez nous rejoindre à la Maison de la Radio.